Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans quelques instants, et comme chaque troisième tumulte de chaque mois, Sylvie Neve nous présentera son poème provisoire. Puis dans 30 minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1133. Jean au micro, salut. Une nouveauté pour commencer ce tumulte, le groupe Yo La Tengo, nouvel album Fade.
Thank you.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub, le poème provisoire de Sylvie Neve.
Bonjour, tumulte. Fin 2012, le poème provisoire a poussé les portes de son nouveau chantier. Nouvelle année, le poème provisoire s'installe jusque mai ou juin dans l'atelier Sévigné. Sévigné, mère et fille. Vendredi 6 février 1671. Madame de Sévigné. À sa fille. Ma douleur serait bien médiocre si je pouvais la dépeindre. Aussi, je ne l'entreprendrai pas. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. Réponse. Ah, mère, ta douleur, tant de douleur. Mère, mais pour quoi? Mère, mais pourquoi? Mère, pourtant. Mère, mais pour tant de douleur. Pourquoi tant de douleur? Pourquoi cette douleur? Pourquoi douleur telle qu'on ne peut la dépeindre? Pourquoi ta douleur, mère, ne pourrait-elle se dépeindre? Pourquoi ta douleur, mère, est-elle si formidablement aiguë? Pourquoi, mère, ne pourrais-tu te déprendre de moi? Pourquoi ta douleur, mère? Pourquoi douleur, mère? Pour moi, je voudrais douceur, ma mère, douceur, et non vos plaintes et votre douleur. Douleur si exceptionnelle, si prodigue. Pourquoi tant et tant de douleur? Pourquoi de la douleur? Et pourquoi pas seulement une douleur piètre et banale et humble et tendre et simple? L'élémentaire douleur d'une mère qui voit ses enfants s'éloigner parce qu'ils ne sont plus des enfants, bien qu'encore ses enfants. Et pourquoi même de la douleur? Et pourquoi donc de la douleur? Quand mes pas, bien naturellement, me mènent vers mon époux. Époux, cher époux. Car j'ai un époux, ma mère, et pas seulement une mère. Et même cet époux, je l'aime. Époux, cher époux, qui m'aime. Enfin, mère, quand te déprendras-tu de l'excès? Quand te déprendras-tu de moi? Quand te déprendras-tu de l'excès de moi? Quand te déprendras-tu de cette douleur magistrale et prodigieuse dont tu témoignes à longueur de temps, 30 ans durant, jusqu'à ta mort, qui me délivre enfin de ta douleur? Na 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 na
day, summer name come, come seskovava, never come. Nia, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ani bílá, ani černý, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani má.
Au revoir, tumulte. À bientôt pour d'autres échanges au cordeau, d'autres échanges mère et fille, en février.
C'est le poème provisoire de Sylvie Neve, chaque troisième tumulte de chaque mois.
Ani já, ani sen, voda, ani prach, radost, ani strach, ani bílá, ani černý oheň, ani led, potom ani hned, ani tma, ani den, málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani sen, tady, ani tam, sama, ani sám, ne. Ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, dávno. Jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den, málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sám, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans une petite dizaine de minutes, le journal de Tumulte, nous recevrons Laurent Cordonnier, enseignant à l'Université Lille-1 et économiste, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie.
Hledej někde se snadno hledá, neklekej si, kde je země měká, neklekej si, kde tě hlída čeká, kde hoří, když čekáš, klesám já, klesám já. Lahvi je hladí, hladina zvlněná mezi dlaněmi, peří, peří nestiskle, nedýchá ani pípíko se nehýbá, ústům se voda nahýbá.
Retour au groupe Yo La Tengo avec son nouvel album Fade. Deuxième extrait, Stupid Things. Thank you. Yola Tango, extrait de leur nouvel album Fade. Nouveauté toujours avec le quartet d'Eric Truffaz, El Tiempo de la Revolución. Truffaz Quartet. Le journal de Tumulte, nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. Au sommaire de ce journal, industrialisation, désindustrialisation et réindustrialisation. Ouf, essayons d'y voir clair. Calcul et erreur de calcul, le FMI fait son mea culpa. Ensuite, en bref, retour sur la grève de la faim des sans-papiers de Lille, la grève dans la fonction publique le 31 janvier et les négociations patronat-syndicat. Et pour terminer, la suite du feuilleton Jean-Jacques Rousseau, épisode de la naissance de l'inégalité et de l'aliénation. Commencer avec Laurent, le triptyque industrialisation, désindustrialisation, réindustrialisation, est-ce que c'est le bon schéma? On va essayer de s'y retrouver, Laurent.
Oula, Jean.
Ah, voilà, c'est bon.
Bonjour Jean.
Salut.
Bonjour Philippe. Oui, parce que ces questions sont en permanence plus ou moins sur la table, mais en même temps plus ou moins frauduleusement. Derrière la question de la compétitivité de l'économie française, il y a en nombre ou en surgras, je ne sais pas, la question de la désindustrialisation. Et en tous les cas, il arrive qu'on rende l'insuffisante compétitivité des entreprises françaises responsable de la désindustrialisation de l'économie. Alors, ça vaut peut-être le coup de faire un petit point sur cette question, parce que c'est presque pas tout à fait vrai. Et c'est même, pour une large part, pas vrai du tout. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est que la France se désindustrialise, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques de l'emploi ou de la valeur ajoutée du secteur de l'industrie, et qu'on le rapporte à l'ensemble du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée annuellement, on s'aperçoit que la part de l'emploi industriel dans le total, ou la part de la valeur des produits industriels dans le total, régresse. Et s'agissant par exemple de la valeur ajoutée, elle est passée en l'espace d'une vingtaine d'années de l'ordre de 18% de l'activité à 12%, 12,5% aujourd'hui. Bon. Donc il y a incontestablement, disons que si on s'en tient à ce constat et à ce diagnostic statistique, il y a une régression de l'industrie dans le total de la richesse créée. Alors, la vraie question, c'est de savoir pourquoi et est-ce que c'est anormal ou pas, avant de savoir expliquer pourquoi. Alors là, il faut dire que tout n'est pas à mettre au compte des problèmes de compétitivité qu'on connaît, et en particulier des problèmes de compétition et de concurrence internationale, parce que une partie de cette désindustrialisation, si on la définit comme ça, c'est-à-dire régression de la part de l'emploi dans le total ou régression de la valeur ajoutée dans le PIB, une partie de cette désindustrialisation est due à quelque chose qui est tout à fait normal, qui est que les gains de productivité dans l'industrie sont supérieurs à ce qu'ils sont dans les services. En gros, dans l'industrie, on réalise encore, bon an mal an, 3 à 4% de gains de productivité par an, alors que dans les services, c'est moins de 1% par an. Ce qui fait que si on voulait continuer à acheter la même quantité de services et la même quantité de biens industriels, eh bien, le prix des biens industriels baisse régulièrement, relativement au prix des services. Il baisse grosso modo au rythme des gains de productivité, parce que les entreprises étant en concurrence, elles ne peuvent pas s'accaparer la rente qui consiste à s'asseoir sur leurs gains de productivité. Bon. Donc les prix des produits industriels baissent au rythme de 2 à 3% par an, quand le prix des services est à peu près stable. Ce qui fait qu'en, encore une fois, en structure et en quantité, enfin pas en structure, mais en quantité constante, on achète d'une certaine manière, on dépense de moins en moins en produits industriels. Et on a besoin de moins en moins de personnes pour fabriquer des produits industriels. Donc ça, c'est un mouvement qui est tout à fait normal. Quand un pays se développe, la part de son industrie doit régresser pour cette raison-là. Bon. Mais elle régresse aussi du fait qu'à mesure qu'on s'enrichit, on a une préférence, on va dire, marginale pour les services. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les pays les plus pauvres, on consacre une grande partie de ses revenus à acheter des biens fabriqués, de la construction aussi, de logements. Et puis à mesure que le niveau de vie s'améliore, on va se tourner vers des types de biens qui ont plus la nature de service, des produits d'assurance, des produits bancaires, de la restauration, des loisirs, de la culture, de la santé, etc. Et donc ça aussi, ça fait que c'est parce qu'aussi on est plus riche que l'on a tendance à consommer davantage de services que de produits industriels. Et donc la structure de la production se déforme normalement. Et il y a une troisième raison, celle-là elle est plus du côté d'une certaine illusion d'optique, c'est que lorsqu'on constate statistiquement la diminution de l'emploi industriel, on emporte dans ces statistiques une forme de biais qui est que l'industrie, depuis une trentaine d'années, a beaucoup externalisé les services qu'elle produisait en interne. Alors, on va essayer d'être simple, mais quand dans une entreprise catégorisée par l'INSEE comme une entreprise industrielle, le service comptabilité est sorti de l'entreprise pour être acheté comme service marchand aux entreprises sur le marché. Donc, c'est-à-dire quand l'entreprise se sépare de sa comptabilité et fait maintenant appel à une officine extérieure à l'entreprise, eh bien, on pourrait dire que sa comptabilité passe du secteur de l'industrie au secteur des services. Mais ça n'a rien changé dans la composition de l'emploi industriel en France. Hein. Il y a toujours à peu près autant de comptables et autant d'ouvriers dans cette opération. Bon. Or, ce mouvement, il a été très fort parce que les entreprises ont externalisé un certain nombre de services opérationnels, mais ensuite aussi un certain nombre de services à haute valeur ajoutée. Bon. Les entreprises ne font plus leur restauration le midi, ce sont des services extérieurs qui le font. Elles ne font plus leur ménage avec le personnel interne, elles ont recours à des sociétés de services de ménage. Elles sous-traitent la comptabilité, elles sous-traitent des services juridiques et du contentieux, etc., etc. Donc ça a été quand même important et du coup ça aide à relativiser le déclin industriel. Alors dans quelle mesure ? Ben, rien que la question des gains de productivité, il y avait une étude de l'INSEE qui montrait que depuis de 1980 à 2007, 65% du recul de l'emploi industriel s'expliquerait très simplement par le différentiel de gains de productivité entre l'industrie et les services. Bon. Donc, c'est déjà important de dire ça parce que ça permet de relativiser le côté pathologique de la régression de l'emploi industriel. Et puis, si on ajoute les autres raisons, bon, on avance un petit peu aussi dans l'explication. Alors, ça ne veut pas dire que la concurrence internationale y est pour rien. Elle y est sûrement pour quelque chose, pour au moins trois raisons aussi, bon, mais qui pèsent sans doute beaucoup moins que les précédentes. L'ouverture et la concurrence internationale peut expliquer en particulier que la France ait perdu des parts de marché à l'exportation. Et comme les exportations sont essentiellement des exportations industrielles, ça veut dire qu'une partie de notre demande extérieure adressée à nos entreprises industrielles régresse en part de PIB. Bon. Alors, pourquoi on a perdu des parts de marché à l'exportation ? Alors, là aussi, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent être normales. La plus normale d'entre elles, c'est que la part de l'économie française régresse dans la part de l'économie mondiale, ou, une autre manière de le dire, la part des pays émergents progresse dans l'économie mondiale. Et donc, si chacun, d'une certaine manière, défend de la même manière son bout de gras dans le commerce mondial, il est normal qu'on régresse dans le commerce mondial. Bon. c'est lié au différentiel de rythme de développement de ces économies. Donc ça, ce ne serait pas une raison pathologique. De ce point de vue-là, il serait normal qu'on constate qu'on devient, toute chose égale par ailleurs, un pays plus petit qu'autrefois, au regard de la production mondiale, et donc on occupe dans les exportations mondiales une part plus faible. Mais alors quand même, il y a deux autres raisons qui sont là, pour le coup, liées quand même à la faiblesse de l'industrie française. L'industrie française est sûrement mal positionnée en gamme de production. Et à la différence de l'Allemagne, ce qu'elle fabrique ne se situe pas sur les segments les plus en croissance de la demande mondiale. Et du coup, ça fait que notre industrie se développe beaucoup moins vite que l'industrie allemande. Donc on a un problème de positionnement quand même en gamme de produits. Et puis, il y a un deuxième problème qui lui est interne à l'Europe, parce que quand même 70% de notre commerce extérieur est européen, 60 à 70%, qui est interne à l'Europe et qui est dû au rythme différent d'évolution des demandes globales dans les différents pays européens. Alors pour essayer de faire simple aussi à cet endroit-là, l'Allemagne, par exemple, qui occupait 36% de la formation de la demande globale encore dans les années 95, n'occupe plus en Europe que 25% de la formation de cette demande globale. Donc l'Allemagne est un pays qui ne génère plus de demande, ni par ses augmentations de salaire, ni par ses augmentations de dépenses publiques, ni même par ses investissements. Elle génère de moins en moins de demandes et la demande qu'elle génère régresse dans l'économie européenne, alors que la France, elle, est restée d'une certaine manière fidèle à elle-même depuis les années 95. Donc d'une certaine façon, nous générons de la demande pour les autres, mais les autres ne génèrent pas de la demande pour nous. Voilà. Alors ça explique aussi le fait que l'industrie allemande puisse se porter plutôt bien et se tenir plutôt vaillamment à l'exportation. Et ça explique que nous, c'est pas seulement nous, c'est aussi l'Italie, c'est l'Espagne, des difficultés dans notre commerce extérieur. Alors du coup, réindustrialisation. Si on a fait ce diagnostic, comment c'est possible? Il ne faut sans doute pas se fixer comme objectif de faire en sorte que de nouveau l'industrie progresse de manière significative dans la structure productive. On a vu les forces qui jouaient naturellement, on pourrait dire. Alors naturellement, le terme n'est pas bon, mais économiquement. Et économiquement et à juste titre, pour que cette part ait tendanciellement régresse, mais au moins qu'on préserve une monnaie d'échange dans nos échanges internationaux, ça c'est tout de même important, et puis préserver le plus possible l'emploi, il faudrait résorber les déséquilibres de formation de la demande globale en Europe. Bon, ça, et tant qu'on ne peut pas desserrer les taux de ce côté-là, on sera véritablement la victime des politiques non coopératives, et en particulier des politiques de rigueur allemande. Et puis, sans doute, il faudrait développer davantage l'innovation et le positionnement en gamme. Mais je suppute ici qu'il y a un problème peut-être encore plus important que ça. C'est que, on le sait, en France, il y a un tissu très faible de PME exportatrices. Tout repose à peu près sur 4000 entreprises, alors qu'en Allemagne, c'est 3 à 4 fois plus qu'en France. Et alors, qu'est-ce que ça dénote? Alors là, le diagnostic ne fait pas du tout consensus et il part à peu près dans tous les sens. Pourquoi finalement cette faiblesse et cette porosité du tissu industriel français? Moi, j'ai tendance à penser que c'est un vrai problème d'entrepreneuriat. Alors, on peut penser que dans ce diagnostic lui-même, il y a du pour et il y a du contre, mais ça veut dire qu'il y a peu de chefs d'entreprise non seulement se projettent dans une croissance forte de leur affaire et dont le but est de faire de leur business un véritable empire industriel, et encore moins d'entrepreneurs qui voient leur salut dans la quête de débouchés à l'exportation. Alors j'en suis convaincu, j'ai pas les moyens de le démontrer. Ça c'est clair, c'est un point assez subtil, mais je crois que ça rejoint une autre intuition qui est quand même que la France n'est quand même pas vraiment le pays d'élection de l'entrepreneuriat et du capitalisme, et que en France, les choses ont vraiment marché quand, grosso modo, c'était l'État qui était une sorte de patron capitaliste et qui avait dans ses mains quasiment le capital des grands champions nationaux. Et c'est à partir de cette propriété publique que les entreprises industrielles se sont développées d'abord comme des champions nationaux et ensuite ont été capables d'attaquer les marchés à l'exportation. Et si on regarde un petit peu ce qui marche vraiment dans nos exportations, on s'apercevra que beaucoup d'entreprises qui exportent, et parmi les très grandes, elles ont généralement été le résultat d'une volonté politique de création, de constitution et de prospérité. Donc on n'est pas vraiment le pays d'élection, à mon avis, de l'entrepreneuriat dynamique. Ça, évidemment, le MEDEF n'osera jamais le dire. Et je crois que c'est peut-être une des principales explications du fait que les entrepreneurs français ne se projettent pas à l'étranger.
Alors, quelques questions, Laurent. Tu as parlé de gains de productivité dans l'industrie de 3-4%, beaucoup plus fort que donc dans le secteur des services. Est-ce que la diminution du temps de travail, puisque les gains de productivité peuvent se traduire par une réduction du temps de travail, est-ce que la réduction du temps de travail a été mise à l'ordre du jour dans l'industrie et est-ce que ça n'aurait pas eu, si ce n'est pas le cas, est-ce que ça n'aurait pas eu un effet justement de maintenir la part de l'emploi industriel dans le total de l'emploi? Ça, c'est une première question. Je te poserai la question suivante. Après, c'est sûr. Bon, j'ai pensé à ça quand on a appris que les chantiers de Saint-Nazaire là, allaient avoir une commande qui allait permettre à ces chantiers de vivre, je ne sais plus, 20 ans, je ne sais plus, enfin un truc énorme.
Ouais, ouais, non,
pas tant que ça. Ce n'est
pas 20 ans. Je crois que c'est une commande, il doit y en avoir pour 3 ou 4 ans à partir du moment où elle sera mise en route.
Ah, d'accord.
Ouais.
Et donc ça sauvait quand même l'emploi, mais la commande en question, c'est la construction d'un bateau, je sais plus comment vous savez, le bateau de croisière énorme, là, c'est des buildings des mers là, qui sont horribles, quoi. Donc on se dit en même temps, bon, bah, la réindustrialisation pose aussi le problème du but de la production et qu'est-ce qu'on produit, est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est intelligent?
Oui, c'est tout à fait juste. Hein. Tes deux questions sont absolument pertinentes. Je crois que la réduction du temps de travail reste une manière tout à fait pertinente de résorber ou d'absorber les gains de productivité lorsque la demande n'arrive pas à progresser au rythme des capacités de production. Bon. Donc, pour moi qui considère qu'on a très rarement des problèmes d'offre, c'est-à-dire des difficultés d'ordre technique ou de production, au contraire, notre appareil productif s'améliore à un rythme peut-être trop évident par rapport à la manière dont on est capable de lui générer de la demande solvable. Donc, une des réponses tout à fait intéressantes, utiles et politiquement satisfaisantes, c'est la réduction du temps de travail. Mais ça ne peut pas se faire seulement dans l'industrie. Je crois que quand on est une société, on ne peut pas dire simplement aux gens de l'industrie, bon, bah, vous, du coup, vous faites des gains de productivité, c'est super, ça va nous permettre d'acheter vos biens moins chers aujourd'hui qu'hier, et pour le même prix, vous allez travailler moins. Et peut-être aussi gagner moins. Enfin, ça veut dire que travaillant moins, leurs salaires progresseront moins vite que ça aurait été le cas autrement. Donc c'est un projet social, global, la réduction du temps de travail. Moi, j'ai tendance à penser que la bonne équation serait une nouvelle progression vers les 32 heures, par exemple, qui permettrait vraiment de changer pas mal de choses dans la donne, y compris de réorganiser correctement les semaines. Et puis, peut-être aussi pour l'industrie, pourquoi pas d'améliorer le taux d'utilisation de son capital. Parce qu'on fait de meilleures équations avec des gens qui travaillent 4 jours par semaine qu'avec des gens qui travaillent 4 jours, un tiers ou la moitié. Bon. Donc, en concevant 4 journées de 8 heures, on peut réorganiser des services, des hôpitaux, des restaurants, des industries de manière intelligente. Mais je crois que alors là, si c'est rationnel du point de vue économique, je ne suis pas sûr que politiquement et socialement ça puisse passer aujourd'hui. Parce que l'idée que pour gagner plus demain, il ne faut surtout pas réduire son temps de travail, elle est bien au cœur des cerveaux. Et ta deuxième question, c'était, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi.
Ouais.
Bah, c'est sûr. C'est sûr. Et,
on peut peut-être même sortir de l'industrie, société industrielle.
Non, mais pour une part, oui. Mais ceux qui disent ça, il faut qu'ils aient vraiment les solutions de rechange.
Ouais.
Comptez pas sur moi pour aller expliquer à un salarié de Florange que ce qu'il fait, c'est con. Et que, oui, mais j'ai rien d'intelligent à lui proposer. Donc, j'irai pas pointer mon bout du nez. Donc, quand on prône la désindustrialisation, y compris parce qu'on pense que c'est... Enfin, y compris, surtout... parce qu'on pense que ça peut être polluant, ça épuise les ressources naturelles, ça génère de l'effet de serre, etc. Il faut quand même avoir quelque chose d'autre à proposer. Or, même du point de vue des produits industriels, il peut y avoir d'autres choses à proposer. Une transition énergétique qui serait véritablement menée à marche forcée, y compris pour sortir de notre problème de dépendance extérieure aux produits pétroliers, hein. On n'a d'une certaine manière pas quitté le problème du commerce extérieur. On a quand même une facture énergétique de 50 milliards par an. Donc trouver les moyens et les produits industriels qui nous feront passer aux énergies renouvelables à un rythme accéléré et qui nous permettront de nous passer nos énergies fossiles, c'est doublement gagnant d'une certaine manière. Ça donne une production industrielle intéressante. Et ça allège la contrainte extérieure qui nous permet de nous développer plus rapidement. Bon. Et donc, les énergies, c'est important, et tout le domaine de l'isolation aussi. Tout le domaine de l'isolation ou de l'amélioration de la qualité énergétique de l'ensemble des appareils qu'on utilise, c'est un chantier gigantesque. Donc, il peut y avoir des projets industriels, mais ils doivent être pilotés, ils doivent être planifiés, ils doivent être aidés par des structures de financement à très bas taux d'intérêt. Parce que le rendement de tout ça, c'est sur 30 ans, c'est pas sur 5 ans ou sur 7 ans. Donc quand les choses se font sur 30 ans, elles passent avec des taux d'intérêt de 1%, pas avec des taux d'intérêt de 5 ou 6%.
Pour terminer un mot là-dessus, Philippe ?
Oui, moi en fait, je voulais poser une question bête, mais qui va un peu dans... Une question bête, quoi. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'industrie ? Enfin, je précise la question, c'est-à-dire quand on parle de société industrielle, on veut dire quoi exactement ? Et d'autre part, est-ce que la question, enfin, tu l'as un peu évoqué là, c'est-à-dire, est-ce que c'est la question simplement de désindustrialisation ou réindustrialisation, mais c'est la question de qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire les formes d'industrie, elles sont pas non plus, c'est pas quelque chose, me semble-t-il, qui est fixe, quoi.
C'est encore d'excellentes questions. Bon, sur la première question, c'est le repérage est peut-être trop conventionnel à ton goût, mais il est simple en fait. Hein, c'est quand on produit des biens tangible, on est dans l'industrie. Et quand on produit des prestations, on est dans le secteur des services. Hein, donc la distinction, tu vas la trouver peut-être extrêmement conventionnelle, c'est une distinction entre bien tangible et prestations.
Quand tu dis bien tangible, c'est-à-dire bien matériel ?
Bien matériel, oui.
D'accord.
Mais juste une question, parce que par exemple, quand on parle de l'industrie culturelle, du coup, qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est à partir du moment où un bien culturel devient un bien tangible.
Oui, non, mais là, ça peut être une espèce de... Pas d'écart de langage, parce qu'on n'est pas là pour jouer les censeurs, mais c'est une espèce de... d'industrie, en fait, on utilise là le terme industriel dans le terme de secteur de la production des biens ou des prestations culturelles.
Oui, c'est peut-être quand dans le secteur des services, on emploie des méthodes nées dans l'industrie pour une production.
Alors, ça peut vouloir avoir aussi cette connotation-là.
Je pense que c'est plutôt ça.
Oui, sans doute. Mm. Oui, tout à fait. Alors, après, tu peux dire, mais la distinction bien matériel et service n'est pas pertinente, on s'en fout. L'important, c'est la valeur d'usage des choses, comme tu le dis, et donc intéressons-nous à ce qu'on fait. Oui, oui, tu as tout à fait raison encore. On devrait s'en foutre. D'une certaine manière. Il y a deux raisons qui font qu'on ne peut pas s'en foutre complètement. Alors, elles sont de second ordre. Elles sont de second ordre, mais n'empêche que conjoncturellement, elles ont leur importance. C'est que ce qui s'exporte, c'est essentiellement des biens tangibles. Bon, parce que c'est à peu près le seul truc qui traverse les frontières. Bon. Donc, quand on veut avoir une monnaie d'échange pour acheter des matières premières ou de l'énergie, il faut avoir quelque chose à offrir au reste du monde. Et ce n'est pas des prestations de coiffeur, de restaurant et tout qu'on peut offrir aux Chinois, parce que c'est un peu loin de chez eux. Bon. Donc, il faut qu'on leur envoie des biens industriels, d'une certaine manière. Donc ça, on aura un problème de commerce extérieur tant qu'on n'aura pas une industrie solide pour échanger avec les autres. Et puis, il y a une autre raison. Elle n'est pas fatale, mais toujours est-il que pour l'instant, il faut faire avec. C'est que les emplois industriels sont quand même généralement des emplois de meilleur statut et de meilleure rémunération que les emplois de service que retrouveront les gens qui ne pourront plus être réemployables dans l'industrie.
On va te laisser un petit peu souffler, Laurent, le temps que je te pose une nouvelle question. En fait, c'est le deuxième aspect de ton intervention dans cette émission. Bon, on parle d'erreur de calcul, une erreur dans une équation qu'a produite le FMI. FMI qui a été amené à faire son mea culpa, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, tout à fait, ça a été présenté plusieurs fois comme ça. Alors, je n'ai malheureusement pas lu l'étude du FMI in extenso, mais cette présentation de la chose comme une erreur de calcul est sans doute un travail ou un remâchouillage très médiatique. Ça n'est pas comme ça, évidemment, que les auteurs ont présenté leur affaire, mais il y a bien quand même, au fond, un petit peu de ça. C'est-à-dire que Olivier Blanchard, qui est conseiller économique au FMI, et un autre économiste qui s'appelle Daniel Leit ont sorti une étude récemment qui indiquait que, alors je vais le dire une première fois en langage technique parce qu'on est bien obligé de le dire comme ça, qui indiquait que les multiplicateurs budgétaires, n'est-ce pas, avaient sans doute été sous-évalués par le FMI. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'État dépense un euro dans l'économie, en finançant d'ailleurs cet euro par emprunt et non pas par l'impôt, c'est-à-dire quand l'État fait un euro de déficit budgétaire, il ajoute donc un euro à la dépense globale dans l'économie. Eh bien, le fait d'ajouter cet euro, normalement, provoque un effet sur l'activité économique et l'emploi supérieur à un euro. Ça, c'est un grand acquis de Keynes et de la théorie keynésienne dans les années 30.
Ça, c'est admis par tout le monde.
Alors, ce fut admis par tout le monde à une certaine époque, disons jusque dans les années 70-80, il était admis qu'il y avait un multiplicateur keynésien de la dépense publique. Bon. Et qu'il était, dans certains pays, de l'ordre de 2 ou 3. Ce multiplicateur, il fonctionne dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire quand on retranche 1 euro, quand l'État retranche 1 euro à la dépense publique, il crée un effet récessif sur l'activité de 2 à 3 euros. Mais pendant une trentaine d'années, les économistes orthodoxes se sont ingéniés à déboulonner Keynes, et en particulier avec leur chef de file Milton Friedman. Et donc l'une de leurs œuvres principales a consisté à contester l'existence du multiplicateur budgétaire. C'est là qu'il faut, il faut s'en prendre à cet endroit précis, effectivement, parce que si vous laissez croire que quand l'État dépense, ça va être bon, alors c'est la voie ouverte au socialisme, comme disaient Hayek et Friedman. Ils le disaient comme ça, comme je vous le dis là maintenant. Donc il fallait s'en prendre aux multiplicateurs. Donc ils n'ont eu de cesse depuis 30 ans, Milton Friedman étant vraiment la figure de proue de ce travail, de déboulonner le multiplicateur et de dire pourquoi, grosso modo, il était égal à 1. Et encore, non content d'avoir dit qu'il était égal à 1, ce qui est déjà pas mal, une performance, ils ont réussi à dire qu'il était inférieur à 1. Du type 0,5. C'est-à-dire quand l'État dépense 1 euro, n'est-ce pas, finalement l'activité économique augmente de 0,5 euro. On se demande où est passé l'euro qui reste. Hein. Ben si, je vais t'expliquer où il est passé. Parce que quand l'État dépense 1 euro de plus, les gens ne sont pas idiots. C'est ce que disent les économistes orthodoxes. Les gens ne sont pas idiots. Ils savent que l'État est en train de s'endetter de 1 euro. Et donc demain, les impôts vont augmenter. Tôt ou tard. Et puis, ceux pour qui les impôts vont augmenter, ils ne sont pas dupes, ils savent que c'est eux, les riches. Donc ils se mettent à épargner dès aujourd'hui 1 euro. Donc quand l'État dépense 1 euro de plus et s'endette de 1 euro, les gens tout à fait rationnels se disent « oh, ça va nous retomber dessus tôt ou tard », donc on épargne tout de suite 1 euro et donc cette épargne retranche tout de suite 1 euro de la dépense globale. Donc le multiplicateur peut être de 0, à la limite, si ce théorème d'équivalence ricardien, comme on dit, marche à plein, c'est zéro. Le multiplicateur, c'est zéro. Et ils y sont arrivés. Hein. Il y en a qui te font des modèles et qui te tiennent mordicus le discours, c'est zéro. Alors là, Keynes est carrément enterré 5 mètres sous terre. Et donc, tous ces gens-là, ils ont passé leur temps à faire ça pendant 30 ans. Du coup, le FMI qui fonctionne avec ses modèles très orthodoxes, ses modèles mathématiques de prévision très orthodoxes, il a au cœur de ses modèles des multiplicateurs très médiocres, lamentables. Bon. Du coup, ils ont sous-estimé l'effet récessif de la rigueur en Europe, et en plus de la rigueur coordonnée. À chaque fois que les États retranchent à la dépense ou élèvent les impôts, ça a un effet récessif beaucoup plus important que ce que les modèles doctrinaires du FMI racontent. Bon, alors donc du coup, Blanchard et Lett ont au moins eu l'honnêteté de reprendre un petit peu les choses et de dire « Waouh, waouh, c'est pas 0,5 le multiplicateur », parce que là, en gros, le consensus était 0,5. C'est pas 0,5, il est entre 0,9 et 1,7. Imaginons qu'ils aient été modestes, que s'ils disent 1,7, c'est plutôt 2. Moi, je le pense. Hein. Je le pense. Vu comme ils sont faits dans leur tête, je le pense. Imaginons que c'est 2. Ça veut dire que quand l'État prélève un impôt d'un euro ou diminue une dépense publique de 1 euro, le niveau de l'activité économique baisse de 2. Comme les impôts, c'est à peu près la moitié du PIB, ça veut dire que les impôts baissent eux-mêmes de 1. Les recettes fiscales baissent de 1 point. Donc il ne s'est rien produit au niveau de l'équilibre budgétaire. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, le jour où ils vont reconnaître que les multiplicateurs sont de 2, réduire la dépense publique de 1 ne permet pas de restaurer d'un centime les finances publiques. Parce que réduire la dépense publique de 1 va réduire le niveau d'activité économique de 2 et va diminuer les rentrées fiscales de 1. Puisque l'État prélève à peu près, par les impôts et les cotisations sociales, la moitié du PIB. Donc ils vont bientôt admettre que faire de la rigueur n'aboutit à rien du tout, mais à rien du tout. Mais là, déjà, avec un multiplicateur de 1,7, ça veut dire qu'il faut baisser la dépense. Il faut baisser la dépense à peu près de 3 ou 4 pour faire rentrer un euro supplémentaire.
Phase quartet qu'on écoutera un peu mieux une prochaine fois dans Tumulte, magazine avec la présence de Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, et Philippe Ledoussal, professeur de philosophie. On va avancer un petit peu dans notre sommaire. Bon, là, en très bref, on va revenir rapidement sur la grève de la faim des sans-papiers de Lille. Grève de la faim qui a démarré, mouvement de grève de la faim qui a démarré le 2 novembre et qui s'est terminé dimanche dernier. Donc un mouvement de grève de la faim qui a duré jusque 72 jours. Bon, ce qui ne signifie pas que ceux qui avaient commencé la grève de la faim le 2 novembre l'ont terminé au bout de 72 jours. Évidemment, il y en a pas mal qui ayant commencé le 2 novembre ont été obligés d'arrêter en cours de route, mais ça fait quand même des gens qui ont fait des périodes de grève de la faim très, très longues, et donc avec des dommages sur leur santé qui sont importants et dont on va se rendre compte dans les prochains jours. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que cette grève de la faim, elle a quand même réussi dans la difficulté extrême a gagné quand même à faire reculer un petit peu le préfet. Et puis, bon, derrière le préfet, il y avait évidemment la position ferme du gouvernement, en même temps cachée, de Manuel Valls, retrait derrière sa circulaire, sans qu'il prenne la parole d'ailleurs pour dire que c'était lui qui imposait la rigueur et la fermeté. Donc, recul du préfet, qui a finalement quand même écrit dans son dernier communiqué qu'il y aurait un examen suivant un calendrier de tous les dossiers soumis par le CSP 59, qui est le comité de sans-papiers donc, qui organisait le mouvement sur l'île, et un calendrier d'examen de tous ces dossiers rapides, et que les dossiers seraient vus avec bienveillance. Et alors donc ça, c'est un langage codé. Quand un préfet dit examen avec bienveillance d'un dossier, ça signifie qu'il y a un processus de régularisation. En même temps, il dit qu'il peut y avoir des refus, hein, mais bon, il le dit. Après, il se situe, mais ça c'était admis aussi par le CSP 59, il se situe dans le cadre de la circulaire Valls, mais cette circulaire, on peut l'interpréter évidemment avec des marges assez importantes, et il y a toujours la possibilité pour le préfet d'être plus ou moins coulant. Et là, il a dit, le préfet l'a dit, qu'il demanderait, il exigerait un minimum de dossiers. Donc par exemple, alors, je vous ai indiqué, pour faire une demande de titre de séjour de salarié, il faut que le sans-papier produise 8 mois de bulletin de paye sur les 24 derniers mois. Évidemment, vous voyez la difficulté. On sait que tous les sans-papiers, en grande majorité, travaillent. Mais évidemment, ils travaillent dans des conditions un petit peu clandestines. Donc, voilà. Donc, produire ce genre de choses, c'est extrêmement difficile. Alors, bon. Il semble donc que le préfet se contentera de certificats, enfin, ou d'affirmations, de preuves, voilà. Donc il y a ce caractère bienveillant et puis ce minimum de dossiers. Donc ces éléments-là qui sont apparus seulement samedi dernier. Ces éléments-là ont permis que le dimanche soir, donc dimanche dernier, les grévistes de la faim décident d'arrêter leur mouvement. Évidemment, le mouvement va continuer pour essayer de garantir le fait que le préfet tienne parole. Alors, un autre enseignement aussi de cette grève de la faim, c'est qu'elle, je le disais, elle a démarré, elle s'est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles, c'est-à-dire qu'en fait, cette grève de la faim correspondait à aucun agenda politique. Manifestement, elle apparaissait même comme irréelle, c'est-à-dire beaucoup de gens se sont demandé, mais je veux dire, tout le monde s'est demandé, mais ils font vraiment la grève de la faim, c'est vraiment, ça existe ou pas? Et en fait, le fait qu'en plus, dans les médias, il y avait un blackout total, au niveau local aussi, et au niveau national, renforçait l'idée que cette grève n'existait pas et était réelle. Et il a fallu vraiment que dans la dernière période, il y ait des actions de solidarité d'autres collectifs de sans-papiers en France, des actions un petit peu voyantes, comme des occupations de la mairie de Lille ou le siège du PS à Paris, pour qu'enfin ça perce. Qu'il y ait des articles dans Libération, dans Le Monde, etc., et dans l'UMA, et que cette grève existe. Bon, la difficulté n'était pas simplement médiatique, etc., mais elle était aussi politique, parce qu'on a vu que, bon, évidemment, le PS a fait blackout là-dessus, mais on a vu aussi que toutes les forces politiques à gauche du PS ont fait silence. C'est absolument incroyable qu'il n'y ait pas eu ce relais naturel qui se fasse et que les partis ou les mouvements syndicaux prennent position et puis interpellent le gouvernement. Parce que la clé, elle était là. C'était le fait qu'il y ait une interpellation publique du gouvernement. Voilà, donc bon, finalement, les choses se terminent plutôt pas mal. Et puis, le mouvement des sans-papiers, du coup, il est relancé un petit peu nationalement, et ce qui montre l'insuffisance totale de cette circulaire Valls. Pas d'autre chose là-dessus. Bon, alors on passe. La grève du 31 janvier dans la fonction publique, c'est une grève avec... Bon, là, ce qui est à souligner, c'est que c'est une grève. C'est-à-dire qu'à la différence des choses habituelles, ces journées d'action, voilà, avec possibilité de débrayage, mais là c'est un clair appel à la grève des trois organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires, donc c'est sur les conditions de travail, l'emploi, bon, les thèmes assez classiques.
Et les salaires aussi, non ?
Et les salaires, oui. Et puis pour terminer, peut-être un mot sur les négociations, l'accord. Alors bon, c'est indiqué comme ça, accord patronat syndicat.
Bah, un mot pour dire qu'il faudra qu'on y revienne, en ayant bien examiné un certain nombre, déjà le détail de cet accord, et puis sa portée politique, sachant que pour l'instant, il n'y a que trois organisations syndicales qui ont signé du côté salarié. Les deux plus importantes, FO et la CGT, n'ont pas signé. Donc ça veut sans doute dire quelque chose quand même. Bon. Et c'est donc un petit peu embêtant qu'on fasse passer pour de la grande négociation sociale et ensuite pour une loi, quelque chose qui a pu obtenir un accord assez minoritaire finalement. Et puis qui porte peut-être d'ailleurs sur des questions un peu secondaires de ce qu'on pourrait appeler la flexi-sécurité, parce que si vraiment on négocie en France quelque chose qui a un peu d'allure donnant-donnant, sans doute que ça mettrait en branle un maelstrom beaucoup plus important que les points, les quelques points d'accord qui ont été trouvés. Donc c'est tout ça qu'il faudra regarder de près.
Voilà, on termine avec Philippe. Philippe, on t'a pas laissé beaucoup de temps, donc c'est la suite du feuilleton Jean-Jacques Rousseau et c'est un nouvel épisode de la naissance de l'inégalité, j'allais dire l'illégalité, de l'inégalité et de l'aliénation.
De l'égalité plutôt, justement.
Ouais.
Oui, alors, bon, comme c'est un feuilleton, de toute façon, on peut toujours revenir, donc... Le temps, c'est pas très grave. Non, oui, la dernière fois, on avait parlé un peu de la question de la conception que Rousseau se faisait de l'état de nature, avec en insistant sur l'idée, au fond, que Rousseau décrivait l'état de nature pour essayer de montrer qu'au fond, les causes du malheur social ne sont pas à chercher dans la nature de l'homme, mais bien dans l'organisation de la société. Bon, alors, pour toujours continuer sur cette histoire du discours sur l'origine de l'inégalité, bon. Les éléments qui sont, enfin, me semble-t-il, font que ce texte garde une très grande force et une très grande actualité. D'abord, c'est cette affirmation qui est quand même le cœur des cœurs de la pensée de Rousseau, c'est que la première source du mal, c'est l'inégalité elle-même. Quoi. Que si on veut trouver une raison du mal, du malheur, du mensonge, enfin de tout ce qui peut conduire à de la guerre, etc., dans les sociétés humaines, il faut la chercher dans l'inégalité. Bon. Et donc, évidemment, l'enjeu de comprendre l'inégalité, c'est un enjeu pour Rousseau, c'est beaucoup plus que ce qu'on entend habituellement. C'est-à-dire que c'est vraiment comprendre quelle est la source du mal. Autrement dit, hein, quand il oppose comme ça, donc dans son discours, dans une première partie, l'homme de la nature et puis ensuite l'homme de l'homme, ce qu'il appelle l'homme de l'homme, c'est-à-dire ce que l'homme devient au fur et à mesure de l'histoire, hein, il s'agit bien de comprendre cette source du mal. Alors, il y a un certain nombre d'idées comme ça très, très, très fortes qui nourrissent cette conception ensuite donc, qu'il se fait. Donc, d'abord, il y a l'état de nature, et ensuite, il y a comment on est passé de l'état de nature à l'état d'inégalité et où on en est aujourd'hui. Bon. Et ça, au fond, c'est ce qu'il appelle, il fait une histoire hypothétique de l'humanité, hein, ce qu'il appelle une histoire hypothétique. Donc, il dit, voilà, l'humanité a dû en passer par un certain nombre de phases, hein, qui, en fait, renverraient, notamment pour une grande partie d'entre elles, à quelque chose qui serait de l'ordre de ce qu'on appellerait aujourd'hui la préhistoire. Quoi, hein. Bon. Alors, d'une part, la première chose, quand même, qu'il dit, c'est que l'histoire humaine... Elle est contingente. Bon. C'est-à-dire que finalement, on aurait pu rester en état de nature. Il se trouve qu'il y a eu une série d'événements, alors catastrophes, volcans, éruptions, enfin il imagine un peu tout et tout ce qu'on veut, quoi, de hasard, etc., qui ont conduit, hein, comme il dit, à perfectionner la raison humaine en détériorant l'espèce. Bon. C'est-à-dire que ce qu'on gagne d'un côté, pour Rousseau... On le perd de l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, ça signifie aussi que, à partir de ces événements, de ces hasards, c'est les hommes qui produisent leur propre histoire, qui font leur propre histoire. Ils la font pas, ils la contrôlent pas, hein, mais ils la font quand même. C'est-à-dire, c'est ni l'œuvre de Dieu, ni l'œuvre de la nature, quoi, ou d'une poussée naturelle, etc. Hein, c'est bien l'œuvre des hommes eux-mêmes, quoi. Donc du coup, l'autre élément tout à fait, je trouve assez incroyable qu'avance Rousseau, c'est cette idée au fond de l'ambivalence du progrès. Bon. C'est-à-dire que Rousseau nous dit que, en ce sens c'est bien une pensée dialectique, c'est une pensée de la contradiction constante, c'est-à-dire qu'il nous dit que le progrès, hein, qu'il y a un progrès, hein, l'homme est perfectible, comme il dit, bon ça c'est une caractéristique naturelle, bon, qui se développe au fur et à mesure de l'histoire après, mais la perfectibilité ça veut dire à la fois un progrès, par exemple le progrès de la raison, etc., comme il dit, mais aussi une détérioration et, au fond... un progrès vers le mal, vers le vice, vers la guerre, l'oppression, etc. Bon, alors l'exemple le plus classique hein, qu'on peut donner, c'est quand il commence à penser la genèse, la naissance de l'amour, quoi, c'est-à-dire de la préférence, hein, parce qu'au départ, les hommes naturels, bon, ils n'ont pas de préférence, hein, tout est... Voilà, c'est selon l'occasion, il n'y a pas de... La naissance de la préférence, hein, ça va créer évidemment le lien quoi, et le lien d'amour petit à petit qui va s'établir. Mais évidemment, le lien d'amour, c'est aussi la possession, c'est aussi la jalousie et donc c'est aussi le crime. Bon. Et on voit bien comme ça comment chaque chose va conduire aussi à quelque chose qui finalement qui conduit à un mal. Quoi. Bon, l'autre idée de Rousseau, c'est qu'il y a un passage, donc une sortie de l'état de nature, et ce qu'il appelle un second état de nature, qui est déjà historique en fait. C'est-à-dire au fond une longue, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, cette espèce de préhistoire de l'humanité, quoi, préhistoire de l'histoire. C'est-à-dire une lente, une progressive transformation des hommes. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne transforment pas simplement l'extérieur, ils se transforment aussi eux-mêmes. Bon. Alors, bon, il y a des inventions comme ça au hasard. Il y a un premier état, alors ça c'est aussi où les hommes... ce qu'on a appelé parfois l'âge des cabanes, etc. Bon, la première révolution, c'est la première fois où les hommes s'associent. Bon. Hein, la véritable jeunesse du monde, comme il dit. Alors ça, c'est un passage qui est celui où ils sont déjà en village, hein, ils sont là, etc. Ils chassent et ils cueillent, quoi. En gros, c'est la chasse et la cueillette. Et ils ont une économie de subsistance qui leur convient tout à fait, hein. Et au fond, c'est sans doute le moment heureux de l'histoire de l'humanité. Bon. C'est sans doute le moment heureux de l'histoire de l'humanité, dont les sauvages, dit Rousseau, aujourd'hui encore, Rousseau qui disait hein, beaucoup les récits de voyage, etc., sont finalement la manifestation. Hein. Bon. Et donc, tout ce qui vient après est au fond une décrépitude. Mais déjà là, il y a les germes de la suite. Hein. C'est-à-dire qu'il commence par exemple à y avoir la jalousie, il commence à y avoir la comparaison, on commence à se regarder les uns les autres, à vouloir être quand même un peu plus beau que le voisin, chanter mieux, etc. etc. Donc même dans cet état, il n'y a pas de naïveté, quoi. Même dans cet état de communisme, de la forêt, on pourrait dire, premier, quoi, il y a déjà quand même des ferments d'inégalité, etc. Bon. Puis alors, après, évidemment, la grande coupure, hein, la révolution, le funeste hasard, etc., c'est, comme il dit, hein, c'est le fer et le blé hein, qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain. Bon. Donc c'est la métallurgie et l'agriculture. Pourquoi ? Bah pour un ensemble de raisons assez simples, c'est d'abord la division du travail, ça devient possible, donc ça veut dire que certains vont faire des tâches et pas d'autres. Bon. La division du travail, l'appropriation de la terre, du coup aussi évidemment la possibilité de l'accumulation, et donc évidemment l'appropriation qui produit l'inégalité. Bon. C'est là que l'égalité originelle va se transformer en son contraire, et du coup, dit Rousseau, Hobbes qui parle de donc son adversaire, quoi, hein, qui disait il y avait la guerre de tous contre tous dans l'état de nature. En fait, dit Rousseau, mais c'est pas de l'état de nature dont il parle, c'est de l'état de l'homme quand il en est déjà là, c'est-à-dire quand il y a déjà la division du travail, quand il y a déjà l'appropriation du sol, l'accumulation de richesses et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc là, oui, effectivement, le riche, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir protéger ses biens. Le pauvre, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va évidemment vouloir s'approprier les biens du riche, hein, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'il en ait plus que lui, quoi. Enfin, bon, surtout que c'est lui qui bosse. Donc, bon. Et donc, évidemment, c'est la guerre. Hein, c'est là l'état de guerre, quoi. Hein, l'état de guerre, c'est à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dit Rousseau? Bah, évidemment, on va essayer quand même d'établir des règles, parce que ça ne peut pas durer comme ça, ce truc, ça ne tient pas, quoi. Bon. Et là, dit-il, bah, ça, on va commencer à avoir le premier pacte d'association, quoi. Les hommes vont s'associer. Bon. Mais le problème, c'est qu'ils s'associent sur une base qui est une base mauvaise, quoi, qui est une base d'inégalité. Hein. Et les riches arrivent à tromper un peu les pauvres, etc. Bon. Et du coup, bah, alors après, c'est la... Alors, bon, il y a plein de choses sur lesquelles je passe. Hein, mais enfin, la continuité du progrès, parce que tout ça est accompagné de réels progrès. On travaille, on produit des richesses, on se socialise, on produit de la culture, etc. Bon. Mais en même temps, bah, évidemment, il y a les riches et les pauvres, déjà. Ensuite, il y a les puissants et les faibles qui apparaissent, avec la magistrature qui fait respecter les lois, etc., qui ont été quand même faites dans l'avantage des riches. Et puis, petit à petit, ça continue à dégénérer, en quelque sorte, comme ça, jusqu'au despotisme. Hein. C'est-à-dire que le despotisme, le maître et l'esclave, ce n'est pas du tout l'état originel. Hein. Les hommes n'ont pas du tout envie d'être asservis dès le départ. C'est l'évolution, comme ça, d'une longue histoire. D'une longue histoire. Alors, maintenant, quand même, peut-être juste deux choses. Hein. C'est que il y a là-dedans des éléments très moderne, quoi. La première chose, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière pour Rousseau, quand même. C'est pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, Rousseau n'est pas un penseur qui dit, bon, il faudrait revenir à cette jeunesse du monde. C'est absolument impossible. Bon. Donc, ce n'est pas en revenant à l'état de nature ou au second état de nature, alors, enfin, la jeunesse du monde, etc., qu'on s'en sortira. Non, c'est en transformant encore plus radicalement l'état de société. C'est-à-dire, c'est en allant plus loin, en fait, hein. Dans l'association des hommes et en retrouvant des formes de pouvoir qui permettent finalement de détruire ces inégalités qui se sont instaurées. Donc ce n'est pas en renaturalisant l'homme et en retournant vivre dans la forêt, comme disait Voltaire, hein, comme prétendait que Rousseau disait ça, c'est pas en faisant ça qu'on va y revenir. C'est en inventant, hein, une nouvelle forme politique du contrat social. Bon, ça, c'est la suite, après. C'est la question du contrat social, etc. Bon. D'où le caractère. Rousseau n'était pas subjectivement révolutionnaire. Hein. Il n'aimait pas trop ça, tout ça, les émeutes, tout ça, c'était pas... Mais en revanche, objectivement, enfin, dans son mouvement de pensée, il y a bien quelque chose là qui nourrit directement la Révolution française, etc. Bon. Et la nécessité d'un droit qui soit un droit juste, quoi. L'autre élément, c'est aussi que l'histoire va pas forcément dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que il s'agit pas simplement de suivre la pente et on ira vers une amélioration. D'une certaine façon, on peut même dire qu'il y a chez Rousseau l'idée à un moment donné qu'il faut contrecarrer le mouvement de l'histoire, que le progrès, ça peut être un progrès de la catastrophe, etc., qu'il faut essayer de l'interrompre. Pas pour revenir en arrière. C'est-à-dire que c'est pas l'interrompre pour revenir en arrière, mais c'est l'interrompre pour faire autre chose, quoi. Et enfin, bon, il y a aussi ce fait que Rousseau est une sorte de précurseur de l'ethnologie, parce que, au fond, il s'agit, quand il regarde les sauvages, c'est pour regarder d'abord la différence et pour comprendre d'abord la différence de manière à comprendre notre propre société. Finalement, les récits de voyage, par exemple, dont il dispose, lui, il pense que ça nous parle de nous. Ça nous parle pas, ça nous parle de l'autre, mais en nous parlant de l'autre, ça nous parle de nous. Et ça, en ce sens, c'est Lévi-Strauss, hein, qui disait que c'était le premier ethnologue, Rousseau, quoi. Et effectivement, il y a cette espèce de regard sur l'altérité, la différence, comme qui nous renvoie notre vérité, finalement.
Qui disait « regard éloigné », d'ailleurs, Lévi-Strauss, ouais. Pour parler de ce détour.
Laurent, quelques réflexions sur... Tu as fini, Philippe?
Bah d'abord,
oui.
On boit son enseignement. Comme ça, on se dit, là, c'est sûr qu'on est, plus intelligent qu'en arrivant à 20h20. Non, je me posais une question quand même, parce que tout au début, tu maintiens bien le suspense, puis après, évidemment, il tombe. Mais tant que tu maintenais le suspense, on se demandait un peu, finalement, à quel type d'inégalité il s'en prend. C'est-à-dire, on peut être inégaux par la propriété. Donc ça, je crois que c'est quand même bon. Par la propriété, la fortune, donc la distinction entre les biens dont on est doté les uns les autres. Mais ça peut être aussi inégaux par les statuts. Ça peut être aussi inégaux par la considération ou la gloire qui nous retombe dessus ou pas. Et ça peut être inégaux par le pouvoir aussi. Bon, je pense, je sais pas s'il y a d'autres types d'inégalités, mais on est à peu près dans. C'est moi qui suis descendu, pardonnez-moi, d'un étage avec ma chaise. Donc voilà, on peut être inégaux sur des registres qui sont différents. Ils sont pas tous commutables ou basculables les uns dans les autres. On peut avoir du pouvoir sans être riche. Dans l'Église, ça a pu arriver à certains endroits, certains niveaux de l'Église, pas tous. Bon, voilà, on peut avoir de la gloire sans être forcément très riche et avoir du pouvoir. Bon. Donc, qu'est-ce qui le préoccupe le plus ? Apparemment, c'est les inégalités de propriété.
Alors, c'est une question extrêmement complexe parce que je crois qu'au fond, ce qu'on peut dire, c'est quand même que la propriété, enfin l'appropriation, parce que c'est la propriété, au départ, c'est l'appropriation, c'est la propriété sans droit, quand même, finalement. C'est un état de fait qui est imposé. Bon. Je pense qu'au fond, c'est la première. C'est pas la première inégalité, il y en a d'autres, hein, effectivement, de considération, etc. Mais c'est quand même, pour Rousseau, la première institution de l'inégalité. C'est-à-dire que ce qui fait que la propriété, c'est un peu la plaque tournante, quoi, c'est que finalement. C'est là que l'inégalité va se fixer, va s'institutionnaliser, va se... Et après, au fond, en tout cas dans le second discours, les inégalités de pouvoir politique, du puissant et du faible, etc., sont quand même d'abord, émergent d'abord de cette première institution.
Oui, tu dis que c'est la première, finalement, c'est la première inégalité qui va être inscrite dans le droit, d'une certaine façon.
C'est ça, oui, c'est celle qui va générer la nécessité du...
Et qui va être défendue par le droit.
Voilà, du droit, et qui va faire que finalement le droit va être au service d'une force. Quoi. Mais ceci dit, juste quand même pour ajouter un truc, c'est que malgré tout, c'est pas si simple que ça, parce que la question du paraître, de comment j'apparais à l'autre, etc., hein, c'est aussi de l'aliénation, quoi. Je suis avant tout comment, la façon dont on me considère, plutôt que ce que je suis moi-même. C'est aussi, pour Rousseau, au fond, c'est l'autre source fondamentale du mal, quoi. C'est presque son nom, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, le mal, c'est le fait que... le malheur de la société, c'est le fait que je sois pas en moi-même et que je sois toujours dans l'autre, quoi. Je suis toujours dans le regard de l'autre. Donc ça, c'est quand même un élément très, très important. Mais c'est plus diffus. Mais ceci, c'est central.
Ouais, dans ton exposé, Philippe, tu datais, hein, d'une certaine manière, le mal dans l'histoire de la société au fer et à l'agriculture. Ouais. Hein, ouais. Division du travail, surplus, appropriation, etc. Alors, est-ce qu'il y a chez Rousseau, justement, une pensée qui articule l'apparition de l'innovation technologique ou technique et puis les changements de structuration de la société? Parce que bon, le fer, l'agriculture, je suppose que c'est lié à des innovations technologiques. Enfin, pour le fer, ça paraît clair. Mm-hmm. Pour l'agriculture, c'est quoi? C'est le fer
en soi, de toute façon, cultiver est une innovation technique, et même si on n'utilise pas des techniques très sophistiquées pour le faire. Donc toi, tu fais la liaison technique, surplus et inégalité, ouais, et
c'est
droit.
C'est comment Rousseau pense ça? Est-ce qu'il a une pensée là-dessus sur le...
C'est sûr que, par exemple, je crois que c'est dans cette question de l'agriculture, parce qu'il dit, au fond, qu'on connaissait l'agriculture avant de vraiment s'en servir, il me semble. À un moment donné, il dit ça dans le second discours. Donc, je pense que c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire c'est vraiment le fait qu'on se mette à avoir des outils qui permettent d'avoir une agriculture qui, justement, produit du surplus, à une certaine... permet de faire travailler d'autres pour soi, etc. Donc je pense, oui, qu'il y a un lien, quand même, entre l'innovation technique, alors qu'il pense de manière bizarre, hein, parce qu'il ne sait pas très bien comment l'expliquer, en fait. Donc il la renvoie un peu toujours aux circonstances. Il dit que c'est un grand mystère de savoir comment les hommes ont pu arriver, finalement, à imaginer des choses de cet ordre. Mais il y a bien le fait que, oui, certaines innovations techniques marquent des ruptures très importantes dans le... Mais tous, enfin, il y a jamais un élément, et ça renvoie aussi à l'autre question, il n'y a jamais un élément totalement séparé chez Rousseau. C'est-à-dire que tous les éléments ne font des étapes et des ruptures dans l'histoire de l'humanité que parce qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire que c'est aussi une pensée de la totalité, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui, à un moment donné, parce qu'ils se rencontrent et parce qu'ils se mettent à fonctionner ensemble dans une société, produisent un événement et une nouvelle donne, pour ainsi dire. Hypothétique, bien sûr. Si.
Est-ce que, juste une dernière question, après on va clore. Est-ce que chez Marx, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, à entendre ce que tu dis de Rousseau, on pense quand même à Marx philosophe, entre guillemets. Est-ce que chez Marx, il y a une réflexion sur Rousseau ?
Ah bah, ce qui est sûr, c'est que le second discours particulièrement, quoi, le discours sur l'origine de l'égalité, c'est une référence pour Marx et Engels.
Explicite.
Engels en parle explicitement. Mm-hmm. Marx y fait allusion, mais je crois que c'était une référence dans... dans le mouvement socialiste et communiste du 19e siècle, c'est une espèce de référence dite ou non dite, mais constante. Notamment ce texte-là.
Un mot pour conclure, Laurent ? C'est encore le dernier mot.
Eh bien, bonsoir.
Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 16h30 et à 23h, et sur le net, et donc partout dans le monde, radiopfm.com. Salut et à la semaine prochaine.